millions de signatures pour demander le départ du président socialiste Nicolas Maduro. Il s'agit là d'une première étape en vue de l'organisation d'un référendum révocatoire. Le bombardement par l'armée américaine de l'hôpital de Médecins sans frontières à Kunduz, en Afghanistan, n'était pas un crime de guerre, mais une succession d'erreurs.
Qui est maintenant multiculturel, multiforme.
Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. John Lyndon à la présentation, Elvin Sangano à la mise en onde. Merci pour votre fidélité à ce programme. Le temps d'une pause et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, cette semaine, coup de projecteur sur l'influence de la musique américaine dans le monde en général et en Afrique en particulier. Pour l'histoire, c'est à partir de 1920 que les États-Unis ont commencé à explorer, à exporter leur culture et partant leur musique. Une musique riche en styles, jazz, blues, rock and roll, rap, hip-hop, salsa, pop, country, folk, et j'en oublie sans doute. Mais on sait que les années 1920-1950 sont des années de l'exportation du jazz. Le rock prend le relais dans les années 1960 et en 1975, c'est au hip-hop d'aller à la conquête du monde. Le hip-hop qui apparaît dans le Bronx à New York est surtout une danse de rue populaire, surtout chez les jeunes. Des jeunes qui, en Afrique ou ici aux États-Unis sans doute, continueront d'être inspirés par deux monuments de la musique qui nous ont quittés. Il s'agit de Prince, décédé le 21 avril 2016, et de Papa Wemba, qui nous a quittés le 24 avril du même mois. Alors, question, que pensez-vous de l'influence de la musique américaine en Afrique et que retenir de l'œuvre de Prince et de Papa Wemba, aussi bien sur le plan humain que musical? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Vous écoutez donc l'Amérique et vous. Pour nous accompagner au cours des 25 prochaines minutes, nous aurons Alain Mevégué à Mobé pour la scène depuis Paris en France. Alain Mevégué est journaliste et promoteur de UBS News, une chaîne de télévision basée à Paris. Et autant le dire, vous êtes l'une des icônes du micro sur la scène médiatique panafricaine. À Mobé, bonsoir.
De m'accueillir et bonsoir à l'Amérique et à toute l'Afrique.
Voilà. Merci pour votre disponibilité à participer à cette émission. Vous restez en ligne. On va introduire nos autres invités. Autre invité, donc, nous avons ce soir et ici en studio, Madame Heather Maxwell. Madame Maxwell anime et produit Music Time in Africa, un programme musical de la Voix de l'Amérique. Madame Maxwell est également docteur en musique avec pour spécialisation l'Afrique. Madame Maxwell, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, how you doing?
Voilà, I'm fine. Donc, je suis ravi de vous avoir ici en studio pour une dizaine de minutes, compte tenu de votre agenda très chargé aujourd'hui. Donc, également, comme invité, nous aurons mon ami et incontournable Roger Muntu, Mr. Peace Africa, que les auditeurs de RM Show connaissent très bien. Roger Muntu, bonsoir.
Bonsoir John et merci de m'avoir dans cette émission.
Voilà, je m'amuse souvent à dire que si vous réussissez à avoir Roger Muntu au téléphone, sachez que vous êtes chanceux. C'est le cas visiblement pour nous ce soir. Alors, pour faire plus sérieusement, Roger Muntu, on va commencer par vous. Vous êtes originaire du même pays que Papa Wemba et vous êtes citoyen américain au même titre que l'était Prince. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux personnages ?
Mais merci beaucoup encore une fois, John, pour ces deux personnages. Et c'est d'abord triste de dire que les deux grands personnages sont morts au même moment, presque. Prince et Papa Wemba. Prince un peu plus avant que Papa Wemba, mais Prince a beaucoup. J'ai suivi votre introduction en disant comment l'influence, en parlant de l'influence de la musique américaine en Afrique, Prince est parmi ces grands musiciens américains qui ont façonné, qui ont aussi marqué la musique africaine à l'époque de Michael Jackson. Tout le monde connaît très bien l'histoire. Prince, il y a un ami qui me posait la question ce matin pour me dire, mais est-ce que Prince était connu en Afrique? Moi, j'ai dit, ben vous blaguez ou quoi? Mais Prince était connu en Afrique, connu et respecté partout en Afrique, partout dans le monde et en Afrique aussi. Et quelque part, sa musique a aussi façonner le hip-hop africain que les jeunes aujourd'hui sont en train de mettre en exergue aujourd'hui.
Et
Papa Wemba, pour parler de Papa Wemba, a été, on le connaît très bien, à part être king de la rumba, Papa Wemba c'est aussi, à part king de la rumba, Papa Wemba a amené un nouveau style à la rumba congolaise, parce que évidemment, il a essayé aussi de faire la world music, essayer de rassembler un peu différents sons, différents styles. Donc quelque part, il y a aussi cette influence-là de la musique américaine, John.
Alors, merci Roger, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Maxwell, vous êtes dans ce studio. Qu'est-ce que vous pensez de la perte des figures emblématiques comme Prince et Papa Wemba sur le plan musical?
Bon, vraiment, c'est comme Roger vient de dire, hein, c'est une perte pour tout le monde de chaque côté de l'océan. Mais bon, vraiment, c'est dommage. Et tous les deux étaient un peu trop jeunes pour nous partir aussitôt. Je peux dire qu'ici aux États-Unis, Prince était vraiment, vraiment un symbole de décades, des générations, ma génération dans les années 80-90. Il avait plus que 22 hits qui étaient au top pendant des mois et vraiment. Ça, on est tout le monde est triste ici.
Voilà.
Oui, Papa Wemba, moi, je suis triste parce que je le connais et je connais la musique africaine. Mais de notre côté aux États-Unis, je ne sais pas si beaucoup de monde connaît la valeur et le travail que Papa Wemba a fait. Pas trop ici.
Voilà, il faut dire, Maxwell, qu'à vos heures perdues, vous faites aussi de la musique et que vous voyagez beaucoup en Afrique. Alain Mvegué, ces dernières années, vous avez suivi Papa Wemba dans le cadre de vos programmes à UBiz News. Que représentait-il pour vous et pour l'Afrique en général? Et puis, que dire de la mort de Prince?
Alors d'abord, je voudrais faire un petit récapitulatif par souci d'authenticité. Mon nom est Amobé Mvegué.
Voilà.
Et aucun autre, Amobé Mvegué.
Tout à fait.
Merci pour cette question. Vous savez, je suis à Paris où vraiment, si vous marchez dans les quartiers populaires de la diaspora africaine ici, vous voyez des gens qui pleurent. Si vous allez à Château-Rouge, qui est un quartier très populaire downtown Paris, vous allez voir des gens qui pleurent, mais de toutes les origines, bien sûr, du Congo, mais aussi de toute la diaspora africaine. C'est une perte inestimable concernant Papa Wemba, d'abord parce que c'était un homme d'une humilité à nul autre pareil. C'est l'un des derniers grands géants qui a traversé plusieurs décennies, qui a connu les pères fondateurs de la musique moderne africaine, au sens où il a connu les géants Kabasele, il a connu Franco, travailler avec ces gens-là, avec Taboulé Rochereau, qui est une autre icône qui a disparu il y a peu, et la perte est inestimable. Papa Wemba s'est détourné aux États-Unis pour répondre un peu à ce qui a été dit tout à l'heure. C'est l'un des tout premiers à avoir fait des tournées aux États-Unis avec Peter Gabriel. Papa Wemba, c'est celui qui a porté la musique africaine au rang d'art, parce qu'il avait deux sonorités. Celle du Mbokanabiso, comme on dit en langue lingalophone du Congo, c'est-à-dire le son de la racine originelle de la rumba, et la fusion, un peu comme Bob Marley l'a fait avec le rock. Eh bien, Papa Wemba l'a fait. Si vous écoutez des albums tels que celui d'Emotion, vous avez une vraie synthèse entre le rock et la rumba congolaise. Donc vraiment, pour moi, la disparition de Papa Wemba, qui était un confident, un grand frère, un papa, un patriarche, c'est une perte inestimable. Je la mets au même rang que celle de Myriam Makeba, vraiment, parce qu'il était en plus panafricain. Papa Wemba ne cherchait pas à travailler avec des gens en fonction de leur tribu, comme on voit certains artistes malheureusement le manifester, et c'est une très très grande perte. Concernant Prince, Moi, il se trouve que je produis des émissions. Bien sûr, nous avons créé une chaîne qui s'appelle UBiz News TV, mais nous produisons des émissions sur les networks francophones tels que TV5 et France 24. Et ce que j'ai rappelé, c'est que Prince est arrivé dans le sillage de Michael Jackson. C'est un peu le recto et le verso d'une même pièce. Et ici, en zone francophone, lorsqu'on parle de Prince, on se souvient de ses débuts avec The Time à Minneapolis, avec Maurice Day, etc. Et il y a toute une kyrielle d'artistes africains qui ont permis que Prince vienne dans les boîtes de nuit ici, parce qu'on se disait il y a les artistes africains qui jouent à Paris, et c'est ce qui a fait que Paris est devenu une capitale mondiale.
Tout à fait.
Vraiment, de la world music. Donc j'associe les deux. Prince est parti beaucoup trop tôt. Il a fait une synthèse de la musique. C'était pas du tout le même positionnement que Michael, mais en même temps, il avait beaucoup d'affinités. Mi-homme, mi-femme, mi-blanc, mi-noir.
Voilà.
Une écriture incroyable entre James Brown et Michael Jackson. Très, très grosse perte pour ces deux artistes, vraiment.
Voilà, merci. Merci à Mobé. Ce qu'on pouvait faire comme hommage à ces figures emblématiques. On va parler du thème de cette émission, l'influence de la musique américaine en Afrique. Et je vais commencer par Maxwell qui est à côté de moi. Parlons donc de l'influence de la musique américaine dans le monde et particulièrement en Afrique. Qu'est-ce qui favorise cet accès, cette pénétration de la musique américaine en Afrique particulièrement?
Bon, c'est notre histoire entre les deux, dans les siècles de 16e à 19e siècle. Il y avait bien sûr l'esclavage et puis l'exportation de la musique et la sensibilité musicale des Africains ici aux États-Unis. Et puis dans l'Amérique du Sud et dans les Antilles et tout ça. Alors, c'est une mélange qui commençait par ça et puis c'est revenu maintenant en Afrique. C'est ça qui a fait le rumba congolais, en fait. Et puis, beaucoup plus des mélodies et puis des styles africains. C'était le va et le vient des gens.
Tout à fait.
Donc, c'est pourquoi, pour moi, il y a cet échange et cette compréhension entre les deux.
Voilà. Maxwell va nous quitter dans quelques secondes. Peut-être vous aviez quelque chose à ajouter avant de partir.
Bon, non, juste pour dire que vraiment je suis désolée et je vous remercie pour avoir fait cette émission sur la thème de ces deux grands chanteurs, artistes africains et américains.
Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps. On va vous laisser partir malheureusement. Amobé, qu'est-ce que les Américains font pour que leur musique s'impose tant en Afrique et partant même dans le monde que nous, Africains, ne faisons pas pour que ce soit l'inverse?
Ah, vous savez, les industries culturelles rapportent des milliards en devises, très loin devant l'industrie de l'armement aux États-Unis. Et en fait, l'Afrique est quand même présente, qu'on le veuille ou pas, parce que par la traite négrière, la déportation, on a bien vu que l'Afrique a enfanté le hip-hop. Lorsque vous écoutez Jill Scott Heron, quand vous écoutez les Jazz Pioneers, tous ces gens-là qui revendiquent la souche africaine, vous parlez même à Quincy Jones, ce sont des gens qui ont une vraie culture musicale et qui disent que l'ancestralité, quand vous souvenez de Nina Simon qui voulait que ses cendres soient répandues en Afrique. L'Afrique est présente, en fait. C'est le problème, c'est la volonté politique du continent et de ses dirigeants de mettre en place un cadre de transformation en plus-value des richesses africaines. Parce que l'Afrique est partout. C'est l'Afrique, en fait, qui a enfanté le funk, le reggae, toutes ces musiques. Et la première star africaine revendiquée, c'est Bob Marley, puisque la Jamaïque revendique d'être une portion d'africanité dans la Caraïbe. Donc je pense que l'Amérique, avec le plan Marshall, a conquis le monde entier, avec le cinéma, l'American Way of Life, la musique, la pop et tout ça. Mais quand on regarde la funky music, on regarde la soul, le jazz, le blues, les gens ont commencé dans les plantations avec les Negro Spirituals, sont allés dans les églises, c'est devenu le gospel, il y a le ragtime, le jazz, tout ça c'est l'Afrique. Simplement maintenant, comme Boyz II Men revendique son africanité, je ne sais pas si vous vous souvenez du moment où Spike Lee et Boyz II Men vont au Sénégal et disent que vraiment l'Afrique a tout donné. C'est aux Africains maintenant de transformer tout ça en plus-value. L'Amérique a fait son travail, l'Amérique avec le le plan Marshall est parti à la conquête du monde, mais c'est aux Africains de transformer avec le droit d'auteur, avec le professionnalisme, tout avec l'arrivée de la digitalisation, le fait qu'aujourd'hui, quand Jay-Z crée Tidal et qu'on a une plateforme, il faut la même chose au Nigeria, en Afrique du Sud, et c'est en train de changer. Moi,
voilà.
Je suis très confiant pour la suite avec des artistes comme Richard Bona qui font le pont entre les
États-Unis et l'Afrique. Alors, Roger Muntu, vous vous animez sur la voix de l'Amérique, une émission musicale tous les jours, une heure. Quand vous rencontrez, vous parlez avec les artistes africains, qu'est-ce qui vous pose comme problème qui fait en sorte qu'ils ne puissent pas s'imposer ici aux États-Unis, par exemple?
Merci John. D'abord pour ajouter à ce que mon ami Amobe vient de dire, c'est une très grande question ici. Ce thème, c'est très important pour cette émission. Il faut comprendre que quand vous parlez de la musique américaine, l'influence de la musique américaine aujourd'hui en Afrique, il faut comprendre que cette musique-là vient d'abord de l'Afrique, comme Amobe l'a dit, de jazz, blues, et même la country music qui venait du blues et du jazz, c'était des musiques des esclaves qui travaillaient dans des plantations, et cela a façonné aussi la musique ici aux États-Unis. Et maintenant, c'est cette musique qui est encore rentrée en Afrique parce que moi, je suis encore tout petit. Quand j'avais, je crois, 4 ans, si je me rappelle bien, quand James Brown est revenu avec le Rumble of the Jungle, Muhammad Ali et George Foreman à Kinshasa, et la performance des James Brown, mais c'était super, super amazing, super cool, qu'on a vu même Rochero, qui nous a quitté il y a quelques années, copier un peu la danse de James Brown. Donc je crois que c'est beaucoup plus l'échange, pas beaucoup plus l'influence, mais il y a l'échange parce que les Afro-Américains ont amené cette musique-là d'ici en Afrique pour aller aux États-Unis, et cette musique-là revient et rentre. Aujourd'hui, il y a les beatmakers, les producteurs comme Jay-Z et tous ces grands qui vont encore en Afrique pour se ressourcer. Ben alors, répondre maintenant à la question vite fait, ces jeunes artistes à qui me parlent chaque jour, qui posent leurs problèmes, c'est beaucoup, quand tu comprends vraiment le problème, c'est surtout le problème financier. Ils n'ont pas de finances, ils n'ont pas de finances, ils n'ont pas des médias pour les exposer au niveau international, et c'est pourquoi merci à La Voix de l'Amérique, à VO Afrique, une émission pareille où nous donnons la voix à ces jeunes artistes pour que le monde puisse les écouter. Quelqu'un qui crée, qui compose sa chanson chez les Bamenda là-bas au Cameroun, ou à Goma là-bas en RDC, ou je sais pas moi, à Manyambougou au Mali, il peut nous envoyer sa chanson et on peut jouer ça et le monde peut écouter. C'est
voilà.
Cette position-là qui manque.
Voilà, on va prendre, vous restez avec nous, Amobe, Roger Muntu, vous restez avec nous. On va prendre un auditeur, il s'agit de Bakary Keita. Bakary, bonsoir. Voilà, en quelques secondes, ta réaction sur la thématique de cette émission ce jour.
Si vous me permettez, je m'incline d'abord à la mémoire des deux monuments, Prince et Papa Wemba. On a vu l'exportation de la musique américaine a un caractère important. Elle nous permet d'un côté de savoir que la musique n'a pas de frontières, et de l'autre côté, la musique est un moyen de distraction et aussi elle permet d'éduquer la société, les Américains par la qualité de leur musique vraiment qui dominait l'Afrique, et c'est vraiment une sorte de magnétisme sur le continent africain.
Voilà.
Si vous me permettez, les deux monuments, je n'ai pas dit que les morts ne sont pas morts. Prince et Papa Wemba resteront quand même gravés dans la mémoire de...
Voilà, merci Bakary Keita, cette réaction de Facebook qui nous vient de Jacques. Jacques, que nous avons certainement en ligne. Jacques, bonsoir. Jacques, bonsoir. Voilà, Jacques n'est pas... Voilà, allez-y.
Oui, je sais. Vous savez, la musique, normalement, elle est commencée par l'Afrique. Hein. C'est en Afrique qu'on a commencé la musique, et avec les esclaves qui ont développé ça aux États-Unis et au Brésil, avec la salsa,
oui.
Le merengue et tout autre là-bas. Et en Amérique, il y a le hip-hop, le rap, mm-hmm. Avec des enfants noirs, des esclaves.
Oui.
Oui, avec Papa Wemba... En tout cas, ça nous a touché très très fort. C'était là-bas, c'était un icône de l'Afrique. C'était une star vraiment qui chantait une bonne musique.
Voilà.
Il pensait aux gens et il n'était pas fier. Il pouvait faire la participation avec n'importe.
Merci, 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 Merci beaucoup, Jacques. On va lire cette réaction de Kalundji sur Facebook qui nous dit « Nous remarquons une grande influence de la musique américaine ici en Afrique. Et cette influence est surtout remarquable dans le rap hip-hop qui est comme la marche à suivre pour les gens qui se lancent dans la musique. Même s'ils pratiquent la rumba, mais ils auront toujours à insérer une partie de musique américaine. » Je vais revenir vers Amobi. Cette musique américaine ne véhicule pas que des messages positifs. On a vu des jeunes se lancer dans cette musique-là avec des thématiques qui ne sont pas forcément propres à l'Afrique. Alors la question, est-ce qu'il faut tout prendre comme musique en Afrique chez les Américains?
Oui, mais l'essentiel, c'est d'avoir le choix. Il y a explicit lyrics et il y a conscious lyrics. Les gens ont le choix. Si vous prenez Esperanza Spalding, ce que Esperanza Spalding fait en faisant une synthèse de jazz et en parlant de l'Afrique, c'est merveilleux. Vous avez bien vu que lorsque le malien Ali Farka Touré, je vais vous raconter une anecdote parce que j'ai la chance d'avoir connu Myriam Makeba qui nous disait que regardez vers l'Afrique parce que c'est vers l'Afrique que ça va changer. Ali Farka Touré était dans la région son rail, à Niafunke dans son village, et il me raconte que les Américains voulaient qu'il vienne enregistrer un album de blues aux États-Unis. Il a dit non, venez dans mon village à Niafunke, et Ry Cooder et tout le gros staff des plus grosses multinationales se sont déplacés en Afrique. Donc c'est encore une fois, c'est une question de volonté. Si vous regardez ce qui se passe au Ghana, où les droits d'auteur sont payés aux artistes, les artistes de Hip Life, c'est le mélange entre le hip-hop et le high life, ils gagnent des millions de dollars. Si Michael Jackson, Prince, trouvait en Afrique un continent qui était organisé en droit d'auteur, il ne sortirait pas du continent pendant 3 ans. Donc vraiment, je pense qu'avec l'arrivée d'Internet, moi je sens qu'il y a une génération qui est en train de se forger et que l'avenir est en Afrique. Il ne faut pas qu'on ait peur de nous regarder nous-mêmes avec nos difficultés et avec nos chances aussi. Donc c'est en Afrique que ça se passe.
Alors, c'est en Afrique que ça se passe, Roger Muntu. Qu'est-ce que, s'il y avait un effort à faire du côté de l'Afrique, Amobi parlait tout à l'heure de la volonté, notamment de la volonté politique. Vous qui êtes dans ce créneau, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait quoi? Que conseilleriez-vous aux hommes politiques en Afrique?
Moi, je conseillerais seulement au ministère de la Culture de prendre soin de ces artistes, de s'occuper de ces artistes, de les écouter d'abord. Ça, c'est la première des choses. John, il faut écouter ces artistes. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent. Il faut les écouter et il faut disposer des moyens pour les aider. Et parce que ce sont quelque part... voilà, Wemba, Papa Wemba qui est mort. On a vu comment la Côte d'Ivoire a été... s'est mis là-dedans. On a vu comment RDC, tout le monde est dehors aujourd'hui pour pleurer cet artiste. Mais ce sont les ambassadeurs de ces pays. C'est ça le problème. Princesse mort ici aux États-Unis, on a vu l'engouement. Ce sont les ambassadeurs de ce pays. Et je crois que ces ministères de la Culture doivent prendre soin de ces artistes.
Voilà, merci, merci Roger Muntu. On va prendre justement une artiste. Il s'agit de Kaïssa Doumbé Molongo qui nous appelle de New York. Kaïssa, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Merci, merci de
voilà.
M'inclure. En fait, juste pour rectifier, je suis à Miami.
Tout à fait. Ah, vous êtes à Miami,
oui. Oui, j'ai déménagé de New York, je vis à Miami depuis 4 mois.
Ah voilà.
Je suis en deuil. Je n'ai pas écouté ni entendu vos interlocuteurs précédents, mais Papa Wemba est pour moi non seulement un grand artiste, mais un grand humain. Et là est la différence. Vous voyez, quand on parle de gens et quand on parle de quelqu'un qu'on a connu, personnellement, j'ai donc eu le privilège de travailler avec lui. À l'époque, nous avions Valérie Lobet à la batterie, qui était du Cameroun, qui malheureusement lui aussi est parti. Il y a eu Noël Ekwabi, un des bassistes de Papa Wemba,
tout à fait.
Qui est parti aussi, qui nous a quittés. Et je reste complètement en choc parce qu'on perd une grande personne. Moi, je veux parler de la personne aussi. Bien sûr, il nous a apporté tellement de joie. C'est quelqu'un qui s'est constamment renouvelé. C'est quelqu'un qui était ouvert, qui était généreux. Je veux vraiment parler de cette générosité. Quelqu'un qui était d'une grande humilité, qui sont des qualités très rares de nos jours, et particulièrement souvent très rares chez les artistes. Je suis désolée, vous allez entendre du bruit autour de moi, mais je tenais vraiment à donner moi aussi mon témoignage.
Voilà.
Je suis dans la rue en train de parler. Voilà.
Voilà.
Nous sommes
Kaïssa, vous ne partez pas juste en 30 secondes. La thématique de cette émission, c'était aussi l'influence de la musique américaine en Afrique. Vous qui êtes artiste, qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait pour qu'il y ait retour de la musique africaine aux États-Unis, par exemple? Voilà, Kaïssa est peut-être partie. On va faire le...
Kaïssa, non, je suis là.
Voilà.
Je suis là, vous m'entendez?
Voilà, on vous entend, Kaïssa. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour que la musique africaine rayonne aussi ici aux États-Unis?
Il y a beaucoup à faire au niveau, déjà, premièrement, de la politique culturelle de nos gouvernements. Hein, on peut se désoler et constater qu'au niveau des ministères de la culture, et je vais parler en particulier de mon pays, il y a énormément de lacunes. La musique africaine est à l'origine de pratiquement toutes les musiques du monde. Qu'on ne l'oublie pas, qu'on se le rappelle. Et encore, je vais dire quelque chose que j'avais dit déjà dans le passé.
En quelques secondes.
Ces musiciens et ces sportifs, j'ai eu l'occasion d'aller dans le monde entier, justement, grâce à des personnes comme Papa Wemba et Salis Keita. Partout où j'arrivais et que j'étais présentée, en tant que Camerounaise, au cœur, les gens huaient, les gens criaient de joie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour référence, par rapport au Cameroun, les exploits de ce que l'équipe des
Lions indomptables
ont réalisé.
Voilà, merci Kaïssa. En quelques secondes,
1992.
En quelques secondes, justement, on va faire le dernier tour de table avec Amobé. Le dernier mot, Amobé.
De Papa Wemba est inestimable. L'humilité, je confirme. J'ai eu la chance de le côtoyer depuis 3 décennies. Les 2 dernières années, je l'ai filmé dans tous les sens et dans tous les recoins. Je dis chapeau à l'artiste, merci pour sa panafricanité. Il ne pensait pas tribu. Nous lui organisons un hommage ici à Paris au New Morning mardi 3 mai à Paris. Et nous préparons une grande, grande salle pour lui, un grand show en juin pour lui rendre hommage.
Voilà.
Parce que c'était un grand seigneur, un grand monsieur.
Merci, merci. Roger Montou, en quelques secondes, le mot de la fin.
Merci beaucoup à vous, John. Merci pour cette émission et merci aux artistes qui sont en train de pleurer Wemba aujourd'hui.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va peut-être finir en musique avec la rédaction. Non, c'est la fin de cette émission. Donc, Elvin était à la production, John Lydon était à la présentation. Merci à toute la rédaction. On se retrouve très très prochainement pour d'autres éditions de l'Amérique et vous. Bonsoir.